Ok, on va aller dans Pierre 2, verset 4, on est rendu. Approchez-vous de lui, Pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici que je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et Sion, pour pouvoir conclure la parole, c'était à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Le titre de l'étude ce soir, c'est la pierre vivante. Peut-être avant de commencer, je ne sais pas si vous avez remarqué le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il ne parle pas de nous, là. Il parle de Jésus-Christ. Au chapitre, au verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. Parce que si on écoute la tournure de la phrase, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse de Dieu. C'est pas pareil. On parle de Jésus-Christ dans le verset 4. Pierre ici parle de Jésus-Christ qui est la pierre vivante. Il parle de nous comme une pierre vivante. Il parle de qu'on s'approche, on a une communion avec Jésus. C'est pas nouveau dans les Écritures. On a souvent des exemples qui nous sont donnés. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus il dit au verset 1, « Je suis le cep, et mon Père est le vigneron. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et vous, l'importance, la communion avec Jésus, avec Dieu. Jésus est le cep, on est les sarments. Il faut être attaché au cep pour porter beaucoup de fruits. Un autre exemple, l'Église. Il dit, vous êtes le corps de Christ, si vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, verset 27. C'est bien beau avoir un corps, mais un corps, votre tête, pas la race. La tête, c'est Christ. Dans Colossiens 1, 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Fait qu'on voit qu'on est dépendant de Christ. On a besoin d'être attaché à Christ. On a besoin de s'approcher de Christ. On a besoin d'être en communion. Le serment a besoin d'être sur le cep. Le corps, l'Église a besoin de Jésus-Christ comme la tête. L'apôtre Pierre apporte les versets qu'on a. Puis là, il compare Jésus à une pierre vivante, puis nous comme une pierre vivante. Et c'est le même qu'il nous voit. Pour Pierre, c'est particulier. Parce que, si vous vous rappelez, tant que la première rencontre que Pierre a eue avec Jésus est assez spéciale. Dans Jean 1, verset 40-42, André, frère de Simon-Pierre, qui était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est plus lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. André a emmené son frère Simon vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, sera appelé Céphas, ce qui signifie Pierre, une pierre. Ici, Pierre nous parle de Pierre vivant. Si vous remarquez, depuis qu'on a commencé à étudier l'épître de Pierre, puis Pierre, dans l'esprit qu'il est, dans l'esprit que veulent comprendre, en tout cas, Pierre s'émerveille devant la grâce qui était faite, qui nous est faite. Il s'émerveille de tout point, on n'a aucune part à ça. Puis tant qu'on regarde, qu'est-ce que Jésus a fait avec Simon? Simon, c'est une pierre vile, inutile, qui est un tas de roche et qui ne sert à rien. Jésus l'a choisi. Il a choisi cette pierre-là et dit, désormais ton nom c'est plus Simon, ça va être Céphas, c'est une pierre. Puis il a donné la vie, il l'a sauvé. Il est devenu une pierre vivante. Pierre n'a aucun mérite là-dedans. Puis, au travers les versets qu'on lit, puis même le premier chapitre de son épître, on voit ressortir ça. Pierre, comment est-ce qu'il met en évidence la grâce qui est faite à lui premièrement, puis aux enfants de Dieu. Le fait de comparer Jésus à une pierre vivante, puis nous comme une pierre vivante, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau parce que si on recule dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 32:4, c'est écrit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Tu sais, Dieu toujours est comparé comme un rocher solide, fidèle, puissant. On voit ça déjà dans Deutéronome 4. En même temps, approchez-vous de lui, Jésus, la pierre vivante. Et peut-être en même temps, qui veut faire contraste avec les dieux, les idoles de bois et de pierre. C'est écrit dans Deutéronome 4:28. Et là, vous servirez des yeux aux braves mains d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Le comparaison qui se fait entre l'idole de pierre, qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas voir, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas secourir, qui ne peut rien faire, mais que nous, qu'on s'approche de Jésus-Christ, la pierre vivante. Celui qui a la vie, celui qui nous a donné la vie. Celui qui nous entend, qui nous écoute, celui qui peut nous aider. La différence est là. On se rappellera, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, va parler du rocher. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu au même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Approchez-vous de lui, de Jésus-Christ, qui est un pierre vivant. Jésus est vivant. Tu sais, on a vu que on a une espérance qui est vivante. Et vivante, pourquoi? Ben, Jésus est mort, enseveli, ressuscité. Et dans les lieux célestes, assis à droite de Dieu. Notre espérance, c'est lui, il est vivant. C'est ça qui est important. Regretté par les hommes, qui est écrit au verset 4, mais choisi et précieux devant Dieu. On se rappelle là, Jésus, quand il est venu sur cette terre, c'est quand même le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas beaucoup qui sont allés à lui. Comparé à ses religieux, c'est relatif, là. Mais c'était quand même le Fils de Dieu. Il était rejeté, crucifié. L'homme naturel n'aime pas la parole de Dieu, n'aime pas Dieu. Il était rejeté. Mais cette pierre-là est précieuse aux yeux de Dieu. Cette parole-là, ce rocher-là, qui est vivant, donne la vie. C'est particulier quand même. Jésus dit dans le verset 5 au verset 39, il parle aux Juifs, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent le témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dieu est un rocher sûr. Amen. Dieu est un rocher qui a la vie, qui donne la vie. Approchez-vous de lui. Peut-être qu'il est rejeté par les hommes, mais aux yeux de Dieu, il était choisi, précieux. Dieu dit dans Ésaïe 28, c'est pourquoi ici parle le Seigneur éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas de puits. C'est Dieu qui a posé cette pierre-là. Une pierre angulaire, une pierre, je ne sais pas si en architecture, vous savez, une porte d'arche en pierre. Vous savez, une porte d'arche, là, ça monte droit comme ça, là, ça fait une courbe comme ça. C'est-à-dire que ça, la pierre angulaire est faite en angle de même. C'est une loi physique, ça. Mais quand tu mets ça, le fait qu'elle soit en angle de même, elle exerce une pression là-dessus, elle tient tout l'arche ensemble. Christ tient toutes choses ensemble. Il lit toutes choses ensemble. Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus le dit lui-même de lui qu'il est la vie. Pourquoi que c'est une pierre précieuse, choisie de Dieu? Ben, précieuse dans le sens que c'est la seule pierre où qui donne la vie. Comme qui est vu dans la carte de ses autres, il n'y a de salut à aucun autre dans les noces du ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est la seule pierre qui donne la vie. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel quelqu'un peut être sauvé. Aucun autre nom. C'est le seul. Le Fils de Dieu. Précieux, choisi par Dieu. Dans Matthieu 12, 18, il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Précieux pour Dieu, choisi par Dieu, Jésus est fils de Dieu. Précieux, choisi, aimé de Dieu, parce que Jésus, son fils, est venu sur cette terre, pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Jésus a été obéissant en toutes choses. En toutes choses. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus a à montagne de transfiguration. Lorsque Pierre et Barnabas sont montés avec Jésus, il y a une nuée qui les a couverts. Il y a une voix qui s'est fait entendre. Il dit, celui-ci, il parle de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé de Dieu, parce que Jésus va tout faire la volonté de son Père. Jésus a failli en rien. Jésus a accompli la loi. Jésus a tout fait l'œuvre que son Père lui avait demandé. Il l'a fait volontairement. Bien-aimé de Dieu. Précieux, une pierre précieuse, à cause de quoi? À cause de son sang. Vous savez, à partir du commencement de la Bible, aller jusqu'à temps que Jésus soit crucifié, l'effusion de sang, il y en a eu. Il y a eu beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de sacrifices qui ont été immolés. Il y a beaucoup de sang qui a été versé. Mais ce sang-là, il ne pouvait pas purifier. Il ne pouvait pas enlever le péché. Mais le sang de Christ, oui. C'est ça qui fait la grande valeur. Et si vous-même, comme des pierres précieuses, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Une maison spirituelle. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, puis vous savez, lisez ça, puis ça porte la réflexion quand même. Bon, vous lire le verset, qu'on parlera, je parlerai après. Et si ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Individuellement, une personne qui est sauvée, une pierre qui est vivante, à cause qu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ, qu'on a cru en lui, on a été scellé par l'Esprit de Dieu. Dieu est venu habiter en nous. Au moment où qu'on a cru confesser Jésus-Christ, Dieu nous a scellé son Esprit. On est notre corps et le temple du Saint-Esprit, puis on ne s'appartient même pas à nous-mêmes. Si on pensait à ça, bien comme beau, il y a peut-être bien des choses qu'on ne ferait pas. Il y a peut-être bien des choses qu'on ferait. Considérant cela. On est-tu à disposition de Dieu? Parce qu'en réalité, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Dieu a fait chez moi sa demande. Dieu m'a choisi. Dieu m'a sauvé. Dieu vient habiter en moi. C'est-tu moi qui vis ou c'est l'Esprit de Dieu qui vient en moi qui vit? On oublie ça? On pense à ça, puis les matins d'un concert, qu'on est le temple du Saint-Esprit? Pas tout le temps. Pas souvent. Comme Église, comme corps, quand Paul était à Corinthe, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? individuellement, personnellement, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ensemble, le corps de Christ, réunis ensemble, on est le temple du Saint-Esprit aussi. Je ne parle pas de l'Église, la baptiste. Je parle de l'Église, le corps de Christ et les membres. Autrement dit, même si on aurait le peu dehors, le temple serait là pareil parce que l'Église serait là. C'est ça que je veux dire. C'est pas, on ne parle pas de la baptiste, je parle de l'Église. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ça peut porter à réfléchir. Dans Éphésiens 2, verset 19, il est écrit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En comparaison au temple, en réalité, chacun d'entre nous, on est une pierre, comme Pierre, et que Jésus est le fondement. Jésus est la base. Jésus est la pierre qui donne la vie. Et si vous remarquez, prenez, quand Salomon a construit le temple, il a emmené, dans ce temps-là, il bâtissait ça avec des grosses pierres. Il prenait des pierres, puis les pierres étaient taillées, et ils ont construit le temple avec ça. C'est la comparaison qu'il donne ici. Et lorsqu'on construit le mur, ben, les ouvriers vont tailler la pierre selon la forme qu'il a besoin pour qu'elle prenne sa place. Comme Dieu nous forme individuellement, nous modèle, nous cisaille pour qu'on prenne la place qu'on apprend dans le corps de Christ. Parce que on n'a pas toute la même fonction. Il ne faut pas avoir toute la même fonction. Si tout serait l'œil, ou serait l'oreille. Autant qu'il y a de personnes, autant qu'il y a de membres. Autant qu'il y a de parties distinctes du corps. Mais on a besoin les uns les autres. Tout ça, c'est une base qui est solide. L'apôtre Paul, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, à savoir Jésus-Christ. C'est à nous à construire notre maison. Cette maison-là est bâtie, c'est un fondement qui est solide, ben, on va l'être à l'épreuve des torrents. On va l'être à l'épreuve des inondations. On va l'être à l'épreuve des grands vents. On est à l'épreuve, des tribulations, des persécutions. Notre maison va rester debout. Pourquoi? Parce qu'on va être sur le solide. Ça s'appelle Jésus-Christ. Quand on regarde ça, qu'est-ce que Dieu a fait avec nous? Puis c'est ça que Pierre met en évidence. On est rendu que on n'est plus étrangers. On n'est pas des gens du dehors, mais on est concitoyens des saints. Même qu'il va jusqu'à dire que on est une race élue. On sait qu'on a été choisi. On l'a vu dans les premiers. Et on a été élus selon la préscience de Dieu le Père. Pierre m'a touché en évidence pour réaliser, qu'on réalise tout ce que c'est que Dieu nous a donné. Tu sais, en réalité, comme Jésus qui est la pierre vivante, comme nous qui sommes de la pierre vivante, comme nous, on est rejetés, comme Christ a été rejeté, mais on est précieux au Dieu de Dieu. Jésus a été rejeté par les hommes. On est rejeté par les hommes. Mais c'est bien dit, par exemple, que mais choisi et précieux devant Dieu. Peut-être rejeté par les hommes. Mais choisi et précieux devant Dieu. Qui est important? Qui m'a servi? Qui m'a obéi? Dieu, les hommes, Pierre, dans le livre des Actes, a répondu. C'est Dieu qui m'a servi. C'est Dieu qui m'a obéi. Parce qu'il voulait le faire taire. Dieu a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Il est écrit dans Apocalypse 1:6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, à lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Il dit, vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Le premier sacrifice qu'on peut faire à Dieu, c'est nous-mêmes. Ben, quand tu réalises que tu es le temple de Dieu, tu ne t'appartiens pas à toi-même, renonce à soi-même pour servir Dieu à cause de tout ce qu'il nous a donné, c'est une évidence. Et quoi que vous fassiez dans Colossiens 3:17, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait devrait être fait pour la gloire de Dieu. Si on a ça en tête, dans notre vie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, devrait être fait pour la gloire de Dieu. C'est peut-être des choses qui changeraient. Dans Colossiens 2, c'est marqué, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a tout en Jésus-Christ. On peut être méprisé, rejeté par les hommes, mais précieux pour Dieu. On a toutes choses. Christ, la parole de Dieu, a créé toutes choses pour lui. Vous savez comme moi qu'on est co-héritier de ça. On réalise sur la grandeur du don que Dieu nous a fait. En réalité, Christ, tout ce qu'il a, il a partagé avec chacun d'entre nous. On est co-héritier avec lui. Quelle bénédiction! Je dis pas de chicane. C'est écrit. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Il dit au verset 7, l'honneur est pour vous qui croyez. Ici, c'est temporaire, mais ce qui est à venir est éternel. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on revêtait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Cette même pierre-là, Christ, vit du Christ. C'est une bénédiction pour celui qui y croit. Mais cette même pierre-là, pour les incrédules, cette pierre-là est une pierre d'achoppement, une pierre qui va les faire, qui les fait tomber, les fait trébucher. Ce qui devient une bénédiction pour nous, devient une malédiction pour les autres. Nous, on va hériter avec Jésus-Christ, eux vont être condamnés pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Dieu a posé une pierre d'âme en Sion. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Je ne suis pas confus, moi. Comment est-ce qu'il a dit ça? Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous remarquez, hein? Nous, on va parler de Jésus-Christ, on va parler de la crucifixion, on va parler de Jésus mort à la croix. C'est. L'Évangile est une puissance pour le salut qu'on croit. Mais c'est lui qui est perdu. C'est une folie. C'est la folie, ça. Mais on va vous dire une chose. Mon temps d'être fou pour Dieu. Des folies, eux autres, ça va lui venir où? Il nous dit, vous qui étiez autrefois, n'étiez pas un peuple qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Là, il fait allusion entre le peuple d'Israël, qui avait été le peuple de Dieu, choisi de Dieu, que Dieu a mis son peuple de côté pour nous faire grâce, pour faire miséricorde. On va finir avec un verset qui est écrit dans Romains 9, verset 26. Il dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés le Fils du Dieu vivant. C'est une citation du livre de Osée, que Paul a fait en Romains 9, lorsqu'il nous explique que Dieu a enlevé les branches à l'olivier naturel pour rentrer les branches de l'olivier sauvage, qui est les nations. On participe à l'huile et à la graisse. C'est ici ce soir que tu as sauvé. Il y a juste une manière, il y a juste un nom. J'ai toujours. Je lis souvent ce verset-là, qu'il y a juste un nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé, à savoir Jésus-Christ. Regardez partout dans le monde, il n'y en a pas un autre nom qui est donné par lequel on peut être sauvé. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de religion, c'est plein. Mais d'une manière d'être sauvé, d'hériter la vie éternelle, puis d'être avec Dieu pour l'éternité, je veux juste parler de Jésus-Christ. Puis Dieu a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est si tu n'es pas sauvé, c'est facile. Viens avec Jésus-Christ. Crois à la parole de Dieu. Crois que Jésus est le Fils de Dieu. Crois qu'il a donné sa vie à toi pour toi. Crois qu'il était enseveli, Dieu l'a ressuscité d'après les morts, qui est vivant. C'est une pierre qui est vivante. Pas quelque chose qui est mort.